boules et des œufs en forme de cube. Bah, les œufs cubiques sont plus faciles à mettre en boîte.
CO2, mon amour.
Goûte. C'est du pétrole.
C'est exact. C'est exact. Alors maintenant, regarde.
Et voilà, c'est de la viande.
Oh. Avec Denis Chasson.
Goûte. Ah non. Goûte. Ah non. Ah non. Ah ben non.
Sur France Inter.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, donc CO2 mon amour, de la nature, de l'environnement, avec Bernard Lagnel aujourd'hui à la technique, qui est assisté de Camille Blanès et Hélène Biziot qui réalise l'émission. Alors, des livres, oui, des livres qui s'empilent tels les gratte-ciels de Manhattan, une tour Eiffel de livres qui s'accumulent à longueur d'année, issus d'où, je vous le demande, eh bien, d'une architecture folle et folière, généreuse et puissante, j'ai nommé l'arbre. L'arbre qui sait qu'il va mourir quand il sèche ou quand il voit la tronçonneuse avec son carburant bio arriver. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'arbre? Eh ben, il fructifie, il jette ses graines pour survivre. Et vous est-il déjà arrivé de franchir, donc, la porte d'une librairie et d'être saisi d'un vertige effrayant pour la pensée, c'est-à-dire tout ce que vous ne lirez pas et que nous ne pourrons jamais lire? Alors vous ressortez étourdi en emportant un ou deux ouvrages, comme vous allez le faire ici à cette fête du livre de Radio France, mais la tentation ne vous quitte jamais d'éventrer les rayonnages, d'ouvrir au hasard l'un ou l'autre et tous les livres et de libérer les milliards de personnages et d'idées qui y restent enfermés. Alors les arbres sacrifiés sur l'autel de la culture, pour parfois pour des souvenirs de starlets, d'animateurs de télé improbables, ou le énième livre sur la quête de sens nietzschéenne en lien avec la médiation biodynamique postnatale ayurvédique, bon, là peut-être qu'on peut discuter un peu. Ou alors d'immortelles pages d'histoire, de littérature, de François-Régis Gaudry, de Morel, de La Fontaine versus Orsena, ou bien même carrément, hein, les indispensables de la Tulu, mon petit loup chez Gallimard, oui, guide de conseil pour se constituer une bibliothèque idéale. Alors là, dans ce cas, les arbres sont-ils sacrifiés à raison? Eh ben là, moi je dis oui. Là, ami arbre, là vous êtes ce lien indispensable à la survie mentale des êtres humains. Lorsque tout s'engluait, collé à l'écran lumineux de nos solitudes, nos yeux saturés d'images imposées, eh ben il nous restera toujours un possible et simple geste de totale liberté, ouvrir un livre de rencontres et partir en voyage, partir en idée. Alors nous n'en sommes pas encore à remercier l'arbre quand même, qui avant d'être débité en offrandes littéraires, comme le font les Indiens, qui remercient la bête qui sera sacrifiée pour les nourrir. Non, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, nourrissons-nous de livres, d'idées, d'émotions. Chacun est une histoire pour les petits et les grands loups. Chacun d'entre nous est une page. Et nous sommes tous, sans le savoir, peut-être un rayon de soleil. Mais relions-nous par la reliure des ondes. Et soyez les bienvenus à la fête du livre de Radio France sur France Inter. Bonjour à tous. Ah là là, c'est... On vous remercie de tout cœur. Ben oui, tout ça, c'est un métier. Et alors, ben c'est vrai que je vous avais dit, il y a Audrey Pulvar qui vient. Et puis Audrey Pulvar, ben elle a rencontré des caténaires. Et puis le caténaire n'était pas d'accord. Alors elle est toujours à Bruxelles. Elle est restée là. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on va pas se mentir. Hein. Eh ben j'ai appelé deux copines qui sont formidables, à savoir Nicole Ferroni, que vous connaissez un petit peu. Et ça, voilà. Merci. Et Sandra Colombo. Et elles ont dit, ben ouais, on va venir. De toute façon, on est là. Oh. Alors, il y avait de prévu quand même Françoise Perriot avec son ouvrage, donc, Les Indiens et la Nature, et Anthony Fardet, Halte aux aliments ultra transformés. Donc, trois sujets. Merci beaucoup, donc, d'être là.
Merci, monsieur Chisson.
Mais je vous en prie, chère Nicole Ferroni, femme formidable, qui vient en 3h30 maintenant, sauf quand les caténaires ne vont pas bien, grâce
les
à elle.
Les miens vont bien.
Les miens vont bien, les vôtres vont bien.
Oui, les caténaires Marseille-Paris sont en
ça
pleine forme.
Ça fonctionne très bien. Alors, on va rappeler que vous avez été agrégé, vous l'êtes toujours, de SVT, de Sciences et Vie de la Terre. Vous avez enseigné en collège et au lycée pendant 4 ans. Et puis, vous avez rencontré Sandra Colombo, qui est comédienne.
Chabada.
Mais pas que, hein. Mais non, moi, on ne le dit jamais assez, mais moi aussi, je
fais des études.
Je fus des études, oui.
Je fus des études.
J'ai un DESS de psychologie clinique.
Paf,
bim. Ah, la Denis Chessou, ça fait moins son frimeur.
Moi, je laisse un blanc psychologique.
Oui, c'est un blanc psychologique.
Ah, c'était le bon mot. Et alors, vous venez de sortir donc Améliore ta vie, ce qui d'ailleurs correspond à ce que vous venez de dire. Améliore ta vie pourrie.
Pourrie.
Et oui, c'est quand même ça. Donc aux éditions.
Parce que la nôtre, elle est pas mal.
Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui va distinguer, on va dire, un jour heureux d'un jour qui est pourri?
Sandra avait une folle envie de répondre.
Oui, c'est ce qu'on a mis en préambule du livre. Oui, bah oui. Mais comme c'est pas moi qui l'ai écrit, je n'en souviens plus.
Ah bon,
donc, non, on s'est dit qu'une vie pourrie, c'était une vie dans laquelle les journées qui se succédaient étaient relativement pourries, elles-mêmes constituées de moments pourris formés de secondes pourries. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a défini. Après, la pourriture peut revêtir plusieurs formes bien ou sûr. Plusieurs thématiques. Ça peut être à la fois la planète pourrie, ça peut être avoir un corps pourri, un spirituel pourri, une relation aux autres relativement pourrie, du pognon alors pas pourri puisqu'il n'y en a pas dans une vie pourrie, et des épreuves qui se portent bien. C'est ça la vie pourrie.
Et ouais, c'est formidable parce que vous avez fait donc les 5 chapitres. Et c'est
les six
chapitres que vous avez donc énoncés dans cet ouvrage. Alors moi, si je prends quand même le premier, parce que le premier est assez écologique, mais tout est lié. On voit bien que tout est lié, parce qu'évidemment, si vous avez un environnement qui est pourri, votre spirituel va pas aller forcément très très fort, votre corps ne va pas aller forcément mieux non plus. Donc on va s'intéresser peut-être tout d'abord, quand même, à la planète. Et alors là, on attaque tout de suite sur les pépins du pompage, parce qu'il y a un côté un peu shadow dans cette histoire.
Oui, on a inventé le concept de pompe-polluage, qui en fait permet de concentrer en un seul mot les deux grosses conséquences de l'humain sur la planète, à savoir pomper, c'est-à-dire extraire les ressources de la planète et rejeter, donc polluer. Donc on a appelé ça le pompe-polluage.
Donc l'idée, c'est quand même, vous qui êtes quand même enseignante aussi dans l'âme, qui nous faites de la pédagogie aussi tous les mercredis matins, donc à 8h55.
Tout à fait, monsieur
Chesson. C'est quand même d'essayer de nous éclairer, de nous prendre un petit peu par la main, mais pas trop violemment, pour nous dire, attendez, là peut-être qu'on déconne un peu ou...
Bah, nous, en fait, on n'est pas trop violente.
On a essayé d'être violente.
On a essayé, ça n'a pas marché.
Avec Sandra Colombo. Et, ouais. Déjà, bon, elle est plus musclée que moi, donc c'est que la violence, généralement, je lui laisse s'en occuper. Mais on s'est dit que la douceur ou la gentillesse était quand même quelque chose qui marchait beaucoup mieux sur les humains. On a de très bons résultats et on l'a vu, on le voit notamment avec vous, Monsieur Chesson. Voilà, le fait d'être gentil avec vous fait que vous avez pu nous inviter.
Vous êtes parfaite. Mais oui, c'est ça. Et spontanément, ça faisait déjà des mois que je voulais vous inviter aujourd'hui. C'est comme ça que ça s'est passé.
Au début, on avait tenté le harcèlement et la menace et ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas du tout marché.
Non, je suis assez hermétique à ça.
Donc, voilà. Et voilà. Et donc après, on s'est inspiré de notre propre livre sur le bien-être spirituel et on s'est dit que la gentillesse était une meilleure formule de rapport aux autres.
Chapitre 1, bien dans sa planète. Alors, donc là, on a parlé de ce premier sujet, mais aussi en pole position de la pole pollution. Et là, on est assez balèze, l'être humain, quand même.
Ah, très très fort.
On est très fort.
Oui, très très fort. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est vrai qu'à chaque seconde, je crois que c'est 206 kilos de plastique qu'on jette dans les océans. Donc c'est vrai que là, par exemple, juste le temps de cette phrase, ça peut laisser déprimer, quoi. C'est-à-dire, oui. C'est pour ça que j'essaie de faire des phrases très courtes, du coup, pour que les humains polluent moins.
C'est ça. Et donc la tortue, après, encore plus. Alors, il y a aussi un chapitre tout à fait réjouissant sur la fiche pratique de l'éco-lover, parce qu'il faut quand même reconnaître l'éco-lover. On ne le sait pas forcément quand il arrive.
Ah oui.
Et pourtant, je veux dire que... Certaines apparences physiques, touffe de poils apparentes. Il y a beaucoup de poils d'ailleurs dans votre bouquin.
Oui, c'est un livre avec énormément de poils, oui.
C'est ça. Alors, il y a panier hérité de sa mère, signe évident qu'il préfère l'osier à l'oseille. Voilà. Il y a fan de légumes proéminente aussi. Il y a lunettes auto-réparées. Il y a badge à caractère militant. Alors, est-ce que là, il y a des gens qui se disent, mais c'est de la caricature.
Oui, bien sûr, c'est de la caricature, mais il faut tirer un peu le fil pour que ça parle à tout le monde, puisque visiblement, ça fait des années qu'on dit des choses et que personne n'écoute.
Oui. Mais alors juste pour expliquer en fait cette page-là, en fait, on est parti d'un constat très simple avec Sandra, qui est de dire qu'un fumeur a beaucoup plus de chances d'arrêter de fumer s'il s'accompagne d'un non-fumeur. Et on s'est dit que pour la pollution, ça devait être pareil. Très certainement que si on s'auto-accompagne d'amis ou d'amants non-pollueurs, on a de plus grandes chances de moins polluer, ce qui nous permet de changer intrinsèquement sans avoir à faire d'efforts.
Donc on
explique comment on repère un écolo responsable. Ouais. C'est quelqu'un qui généralement mange des légumes, qui répare ses lunettes lui-même, enfin qui ressemble un peu à Anthony Fardet finalement.
Tout à fait. Fardet, oui, qui est comme ça, qui est docteur en sciences d'ailleurs aussi.
Vous voyez, voilà, c'est-à-dire ce type de petit polo un peu léger, voilà,
ouais,
on voit.
Oui.
Et ben, en plein hiver,
paf, on sent que ça sera beaucoup plus facile à son contact. Voilà, typiquement, c'est le
ça. Appel à toutes les femmes
qui
veulent être influencées par quelqu'un qui a été colo-responsable.
Mais voilà, formidable, voilà. Effectivement, qui a un charisme absolument certain. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'abord de nous offrir une première chanson, parce qu'on a les chansons très bien sur France Inter. Puis on va poursuivre à travers donc vos trois livres, parce qu'elle ne s'est pas encore exprimée, mais aussi, donc on va parler avec vous des Indiens et de la nature. Donc notre premier disque. Allez, c'est parti, Alain Bisou, on y va.
commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, y'a 5 filles contre et 5 gars pour. Routard, je leur soumets mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse sec comme un schnapps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de Taïwan.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnopéique, géopoétique.
S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, à Dieppe, ou vol comme Bob au Comore.
Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol qui vit.
Une promo d'Opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, cité du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif. Y'a que la Confédération Suisse.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnopéique, géopoétique.
Du monde j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. J'y ai appris des choses, en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes. J'ai vu la cordillère des Andes, le Honduras, en lisant Neruda, Hemingway, Simon Honduras. J'y buvais des légendes. On dit qu'en Colombie, les hiboux deviennent chouettes dès lors qu'ils croisent une colombe. Bi. Pour rouler sans trafic, chameau en Centrafrique. J'ai même croisé Jamaïque, le Rastaman en Jamaïque. Je lui parlais des plaines, du golfe du Yémen. Il lâchait des volutes accompagnées par des Yémen.
Cancer du tropique.
Géopoétique, le dernier album, comme on dit, donc de MC Solar sur France Inter, dans CO2, mon amour.
CO2, mon amour.
Waouh !
Alors ça, c'est la plus grosse fraise que j'ai jamais vue de toute ma vie.
Est-ce qu'elle est lourde ?
Ah ouais ! C'est vrai qu'elle est démesurée, mais à part ça, c'est une savoureuse fraise, tout ce qu'il y a de plus normal.
Avec Denis Chessou. Sur France Inter.
Eh oui, elle vit encore donc cette fraise, mais est-ce qu'elle est transformée, voire ultra transformée? Nous avons trois sujets aujourd'hui, vous l'avez compris. Nous avons donc avec Nicole Ferroni et Sandra Colombo une vie pourrie, donc elle cherche à nous l'améliorer. On vous remercie beaucoup mesdames, vraiment merci beaucoup. Nous avons des Indiens et la nature, quel rapport avec Françoise Perriot. Et puis donc nous avons halte aux aliments ultra transformés avec vous Anthony Fardet, parce que vous êtes docteur S sciences, chargé de recherche en alimentation préventive et holistique. Alors tout de suite, c'est vrai qu'on a bien compris que globalement, le sucre, c'était pas terrible, le sel, c'était pas terrible, le gras, c'était pas terrible, tout ça, ça nous fait des fabriques à obèses merveilleusement dans tout l'Occident. Mais quand même, vous, ce que vous dites, c'est attention aux aliments ultra transformés. C'est quoi un aliment ultra transformé?
Alors, c'est une bonne question.
Non, mais en fait,
le problème c'est pas le sucre, le sucre, le sel et le gras.
Alors bon.
Faut arrêter de raisonner par nutriments parce qu'on s'en sort pas. Le problème est pas là. Le problème c'est le véhicule de ces nutriments. Et les produits ultra transformés, alors qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, ce sont des produits qui sont des recombinaisons d'ingrédients qui eux-mêmes ont été isolés d'aliments originels hein, par le cracking des aliments, le cracking du blé, du lait, etc. Donc on produit des ingrédients...
Est-ce qu'on appelle juste le cracking ?
Oui, le cracking, c'est fractionner les aliments en ingrédients, par exemple le blé en farine, en amidon, en gluten, en fibres, en son, en huile, etc. Le lait, pareil, on fait plein d'ingrédients qui sont produits en masse dans le monde entier. Et ensuite, on les recombine pour faire des aliments, ce qu'on appelle des faux aliments, ce que j'appelle des faux aliments, des aliments artificiels dont la matrice de l'aliment est totalement nouvelle pour l'homme. Donc, ils sont arrivés massivement dans les années 80. Alors, pour les reconnaître, on ne reconnaît plus l'aliment d'origine, puisque ce sont des aliments artificiels. Vous avez une longue liste d'ingrédients d'origine industrielle et des additifs d'origine industrielle que vous ne trouvez pas en magasin, hein. Et donc, souvent, vous ne comprenez pas le nom. Donc, plus la liste est longue, plus c'est inquiétant. Et la troisième caractéristique, c'est souvent des emballages très colorés, très attractifs, évidemment pour favoriser l'acte d'achat. Et pour les céréales du petit déjeuner pour enfants, souvent on rajoute des petits personnages de l'univers des enfants, de Walt Disney, des super-héros pour favoriser l'acte d'achat. Donc c'est des caractéristiques qui sont typiques des aliments ultra transformés. Donc ce sont tous les snacks sucrés, salés, gras. Les céréales du petit déjeuner pour enfants à 95%, ce qui est dramatique. Les yaourts à boire, les sodas, les confiseries, les bonbons, les barres chocolatées, les plats industriels avec plein d'ingrédients et d'additifs. On rajoute par exemple du sucre dans 75% des plats préparés industriels. Donc voilà, c'est important de les reconnaître parce que tous les aliments transformés ne sont pas mauvais. La plupart des aliments transformés sont parfaits pour votre santé. Hein, quand on est passé du cru au cuit, bah, c'était transformé il y a 1 million d'années.
Ça.
Donc ça fait 1 million d'années qu'on mange transformé. Donc transformé n'est pas négatif. Ce qu'on a voulu pointer du doigt les scientifiques et ce concept qui est très nouveau, qui a été mis au point par des Brésiliens en 2012, c'est le concept d'ultra transformé qui n'avait jamais été défini. Donc une fois qu'on a identifié la cause, on peut mieux la combattre. Exactement. Et tant qu'on n'avait pas mis le mot sur ultra transformé, dans l'esprit des gens, bah, tout ce qui était transformé était un peu modifié, pas bon. Mais c'est faux.
On retrouve un peu ça quand même dans votre ouvrage aussi.
Oui, en fait, on a piqué une grande partie du chapitre.
Ouais, on a été capturé le livre avant la sortie.
Il y a des problèmes de droits d'auteur là.
On a fait un peu pareil qu'avec Audrey Poulvar. On a capturé tout le contenu de Anthony Fardet et on l'a mis à notre nom.
Ceci dit, si je peux intervenir là-dessus, alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, l'alimentation, parce que ça ne se voit pas. Dieu merci, je suis à la radio, mais je suis extrêmement mince. Et pourquoi vous riez? C'est pas drôle. Et j'ai fait tous les régimes de la Terre et du monde entier à peu près. Et c'est vrai que...
Il suffit de manger peu transformé, c'est bon.
Voilà. Et je le savais pas, mais réinvitez-moi dans un mois, vous allez voir, vous n'allez pas me reconnaître.
Ce qui est très important, c'est voilà, il faut plus raisonner en nutriments, c'est-à-dire le problème n'est pas là, c'est pas les nutriments qui comptent, le sel, le sucre et le gras, on en a besoin. Donc il faut pas, parce que si on raisonne comme ça, on finit par diaboliser des nutriments comme le cholestérol, les acides gras saturés. Or aujourd'hui, c'est en train d'exploser. La science montre que le problème n'est pas là. Donc moi, je veux une vision holistique de l'aliment, globale. C'est la matrice, c'est l'aliment dans sa globalité qui compte. Et quand on fractionne tout et qu'on recombine tout, halte, attention.
C'est-à-dire, ce que vous nous dites, c'est que dans les aliments qui sont ultra transformés, la part d'aliments en fait est faible ou quasiment inexistante.
Ben, la part d'aliments naturels originels est très faible en général dans ces aliments. On passe vraiment des vrais aux faux aliments. C'est-à-dire que c'est dans les années 80 que ces aliments sont arrivés massivement. Donc on a subi une transition nutritionnelle dont personne ne parle dans le monde entier. Et pourtant, c'est une transition essentielle puisque les maladies chroniques ont commencé à exploser au même moment que ces aliments sont arrivés massivement dans nos supermarchés. Et ça, on n'en parle jamais. Et donc, notre corps réagit à ces faux aliments, qui sont source de sucre rapide, très dense en énergie, peu satiétogène, peu rassasiant. Peu rassasiant.
Non, c'est bien.
Et donc, on crée le lit pour le diabète et l'obésité, qui explosent dans le monde entier. Et comme par hasard, les pays qui consomment le plus ces aliments, qui sont les pays anglo-saxons, les taux d'obésité et de diabète est plus élevé. Donc, voilà.
Mais le problème de ces aliments, c'est que c'est très très bon. Voilà.
Oui, mais c'est très bon parce qu'on vous habitue à des fortes doses de sucre, de sel et de gras et d'arômes artificiels.
Et
donc
oui.
Vous avez perdu le goût des aliments naturels, donc il faut le réapprendre, mademoiselle.
Alors voilà, ça c'est bien. Mais c'est aussi, vous rejoignez dans les deux livres là-dessus. Mais je vais prendre un exemple. Bon, mettons, je suis un poisson, vous me mettez dans une poêle, donc vous allez me cuire. Ok,
voilà.
Donc là.
Peu transformé.
Peu transformé.
Parce que vous reconnaissez l'aliment d'origine. Vous voyez bien que c'est un poisson.
Bon, chez sous, peu transformé.
Ouais, un chez sous, peu transformé. Mais si vous voulez rajouter de la panure déjà.
Alors, en fait, on distingue trois niveaux. Peu, normalement et ultra. Et le problème, c'est ultra. Normalement et peu, c'est aucun problème pour la santé. Donc, un poisson cru, bouilli et peu transformé. Des sardines à l'huile, on a rajouté des ingrédients de l'huile, mais que vous pouvez trouver à la maison. On est dans du normalement transformé.
Ça nous rassure, Nicole.
Parce que vous reconnaissez la sardine dans la boîte, la matrice de l'aliment original. Mais quand vous passez aux nuggets de poisson, vous avez une longue liste d'ingrédients et d'additifs, de la chair de poisson broyée qui peut-être provient de 200 à 300 poissons différents. Par exemple, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, qu'ils avaient trouvé dans un hamburger à l'origine du hamburger plus de 300 ou 500 vaches différentes. Donc
ah ouais,
bien sûr. Même. Donc vous voyez, là on bascule on bascule vraiment, c'est comme le lait que vous consommez, il est issu d'une multitude de vaches différentes.
Bien sûr.
Donc là on bascule dans l'ultra transformation parce que dans le nuggets de poisson, vous pouvez pas savoir si c'est un bar, une sardine, un merlan ou un lieu.
Donc on peut même pas s'attacher à la vache que l'on va manger parce qu'il y en a 300.
Et ce qui est très très intéressant, c'est que vous pouvez décliner cet exercice pour tous les aliments. Vous avez des jus de fruits peu transformés, normalement ultra, vous avez des yaourts peu transformés, normalement ultra. Et pour moi, c'est capital parce que là, on a le vrai lien avec la santé.
Cher docteur Anthony Fardet, la question qui tue, est-ce que les produits bio sont épargnés ?
Non. Si vous mangez bio, sans gluten, végétalien ou végétarien et ultra transformé, c'est la même chose que de manger omnivore. Par exemple, une étude de Harvard est parue récemment et Le Monde l'a reprise, donc publiée dans un journal très très important. Ils ont montré chez des végétaliens, ils ont divisé en ultra transformés les végétaux et en peu transformés. Et les végétaliens qui bouffent ultra transformés ont les mêmes risques de maladies coronariennes que les gros mangeurs de viande.
Là, il y en a qui font déjà une crise. Hein, vous écoutent, ils sont pas bien là en vous écoutant.
Il faut dire la vérité aux gens. Voilà.
Oui, bien sûr.
Et il faut lire les étiquettes surtout parce que c'est ce que vous disiez. C'est vrai que tout est écrit sur les étiquettes. Quand la liste d'étiquettes fait plus que 3 lignes, il faut laisser tomber.
Comme on a tous la vue qui baisse, c'est compliqué parce qu'il faut prendre une loupe.
Et surtout si vous reconnaissez pas les noms, c'est-à-dire que c'est des trucs que vous pouvez pas acheter à la maison, par exemple des protéines de lactosérum, du sirop de glucose fructose, des isolats de protéines, des carragénanes, de la gomme de guar, enfin etc., des je sais pas combien, vous pouvez pas l'acheter à la supérette. Donc c'est typiquement industriel et en fait ils sont là pour restaurer la destruction de l'aliment, le maquiller. C'est du maquillage d'aliments. On fait des faux aliments, on les maquille parce qu'ils ont perdu texture, goût, couleur. Donc on les maquille avec des additifs pour restaurer ces trois dominantes. C'est un peu comme si on retapait une vieille bagnole, quoi.
C'est ça. Alors, de même qu'il y a une partie philosophique dans l'ouvrage de Nicole et de Sandra, j'allais dire, vous aussi, c'est-à-dire qu'une partie spirituelle et philosophique, les racines du mal,
oui,
là aussi, donc là, on remonte à quoi ? Au mouvement réductionniste,
oui,
et là, on doit à Descartes
On est dans la culture réductionniste, dont Descartes a posé les bases dans le discours de la méthode, il a systématisé. En fait, c'est quoi la pensée réductionniste ? La recherche occidentale est basée sur cette recherche, c'est-à-dire que comme la réalité est trop complexe pour être étudiée, on la sépare en entités isolées. Donc 2 égale 1 plus 1, le tout est égal à la somme des parties. Or le tout est supérieur à la somme des parties parce qu'il y a une interaction entre rien et rien. Donc on a fait pareil avec les aliments, on les a fractionnés et on a étudié les nutriments de manière isolée et on a réduit le potentiel santé des aliments à 1 ou 2 nutriments. Donc tout le monde dit le lait c'est le calcium, la viande c'est les protéines, les céréales c'est les fibres. Or c'est totalement faux parce que comme il y a interaction entre 1 et 1, 2 est supérieur à 1 plus 1. Enfin je suis un peu du Jean-Claude Van Damme qui disait que 1 plus 1 égale 1.
Fait du Jean-Claude Van Damme.
Et il n'était pas si bête que ça Jean-Claude Van Damme Et donc 2... Dans la vision holistique, 2 est supérieur à 1 plus 1 parce qu'il y a une interaction, il y a de l'interdépendance entre tout. Et dans l'aliment naturel, vous avez cette vision holistique et interdépendante des nutriments. Et c'est ça qui protège votre organisme. Quand vous fractionnez tout et que vous réassemblez, vous perdez cette synergie. Et donc, vous ne protégez plus votre organisme. Et c'est pour ça que les gens dont la base sont les aliments ultra transformés sont les plus malades sur la planète.
Et des orientaux qui, effectivement, peuvent nous envoyer pas mal de cochonneries, peu importe, que l'on a d'ailleurs choisi parce que ce sont nos usines là-bas, ont une démarche beaucoup plus holistique.
Oui, c'est une tradition orientale, l'holisme, la médecine holistique. Hein. Nous, on a l'Occident plutôt une tradition réductionniste. Donc, ce qui serait génial pour l'avenir, et c'est ce que disent certains penseurs, c'est que les deux approches se rencontrent et se nourrissent mutuellement, un peu comme le yin et le yang. Et évidemment, ils reconnaissent les Asiatiques de manière naturelle l'interdépendance entre tous les phénomènes. C'est quelque chose, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Enfin, tout est interrelié et c'est très juste puisque la science ne fait que valider cette vision des choses. Et c'est ça qui est important, c'est que je ne me suis pas levé un matin en disant « halte aux aliments ultra transformés parce que j'ai fait un cauchemar ». C'est le fruit de la réflexion d'un chercheur quand même. Enfin, ça fait 20 ans que je fais de la recherche et c'est le fruit de ma réflexion et... Il y a plus de 160 articles cités dans le bouquin.
Alors, on verra évidemment les règles d'or pour une alimentation saine. Mais là,
oui, parce qu'il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir, mais il faut faire un peu de teasing. Vous voyez, là, on a posé un peu le décor. Là, c'est bien comme il faut. Mais il y a comme effectivement de l'espoir. Et moi, j'ai envie que nous passions aussi à nos amis indiens. Allez.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Là, on a entendu du Sioux. C'était du Sioux, Nicole.
Oh oui, l'Iroquois est beaucoup plus aigu.
Oui, c'est ça. Et le Cherokee, qui n'est pas qu'une marque de bagnole, je le dis aux jeunes générations, aussi, est plus guttural.
Oui, beaucoup plus dans la gorge.
Ah, on est...
Je suis désolée, ce n'est pas du Sioux, c'est du Lakota.
Oh, voilà. Et voilà, et on
ça
s'est fait
frimer,
planter.
Ça veut frimer,
et
voilà.
Et oui,
voilà.
On s'est.
Ah, il fallait pas m'inviter.
Bien fait planter pour inculture, mais ça, c'est, on est comme ça.
Vous et savez, les Sioux mangent peu transformés.
Hein, voilà. Le Sioux mange très peu transformé, bien sûr. Alors, François Perriot, vous avez sorti donc cet ouvrage qui est formidable, qui s'appelle Indiens, les Indiens et la nature. Et aux éditions du Rocher, vous êtes parti d'ailleurs effectivement sur des photos extraordinaires. Vous avez vécu d'abord aux États-Unis. Vous avez rencontré donc ces différentes cultures. Et puis, un jour, vous vous êtes dit, effectivement, quand même, on le sait qu'ils ont un rapport quand même très fort avec la nature, mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire que le point de départ, d'abord, justement, parce qu'on parlait des différentes tribus, est-ce qu'on fait une distinction sur le rapport que les Indiens ont avec la nature, entre, mettons, les Cheyennes, les Sioux, les Hopis, les Apaches, les Cherokees, les Mohicans, que sais-je? Ou bien est-ce qu'il y a quand même un tronc commun?
Oui, il y a un tronc commun qui est justement l'attachement à leur terre et le sentiment qu'ils sont les gardiens de cette terre. Qu'ils soient habitants dans les déserts, près de la mer ou dans les montagnes, la terre est une entité dont ils font partie et qu'ils doivent protéger. Et je rejoins un peu ce que disait Anthony, l'idée du tout est très importante chez les Indiens.
Tout à fait.
Voilà. Et par exemple... les arbres, les animaux, les êtres animés ou non animés, comme les pierres, sont aussi importants que les humains. Il faut se rappeler que les cultures indiennes, qui sont des cultures très anciennes, sont basées sur des traditions orales, c'est-à-dire des histoires qui se racontent d'une génération à une autre. Et les fondements de cette histoire, de cette culture, ce sont la mythologie ou les légendes. Or, la première légende qui explique l'arrivée du monde, le pourquoi des hommes sur Terre, c'est ce qu'on appelle les mythes d'émergence. Et dans tous les mythes d'émergence, les humains arrivent sur cette Terre après les plantes et les animaux. Donc il y a un lien qui se tisse d'emblée, un lien de respect avec ces êtres qui étaient là avant eux.
Mais alors, on va dire presque ce lien de parenté, je crois qu'on peut le dire avec la nature, qu'est-ce que ça leur apprend, qu'est-ce que ça leur permet de différent?
La différence entre, je ne sais pas si on peut parler de différence, ce qui est sûr, c'est que ce lien de parenté leur permet d'avoir une assise solide sur cette terre où les environnements dans lesquels ils vivaient étaient parfois difficiles. C'est évident qu'il faut connaître les plantes qui nous entourent pour ne pas s'empoisonner. Donc il y a un lien de parenté parce que c'est une façon d'être plus proche de nos éléments. Et aussi une façon de faire partie de ce tout sans lequel il ne serait pas en équilibre. Et tout est une question d'équilibre.
Alors, dans les questions d'équilibre, moi je reviens quand même un tout petit peu, les questions que j'aurais dû vous poser avant. De quels Indiens on parle? Est-ce que ce sont ceux d'avant la conquête des Blancs? C'est ceux d'aujourd'hui?
Alors, dans mon livre, je parle... les photos racontent plutôt les Indiens d'avant.
D'avant, hein, ça.
Et je parle des Indiens d'aujourd'hui. Alors, voilà, pourquoi j'explique... pourquoi? Parce qu'en fait... nous, on a plutôt une vision linéaire.
Du temps.
Les Indiens, pas du tout. Ils ont une vision cyclique. Donc, parler du présent, du passé, de l'avenir, c'est encore une fois parler de ce que l'on est vraiment. Donc, je raconte ce qui se passe aujourd'hui avec des photos du passé.
Les 7 générations, ça, c'est un concept, on va dire, aujourd'hui, mais qui est extrêmement important.
Alors, il est extrêmement important parce que ça nous dicte un peu... notre façon de nous comporter face à l'environnement. L'idée des 7 générations, c'est une idée qui est née avant l'arrivée des Blancs en 1600 sur la côte Est. Ce sont les Indiens de la Confédération iroquoise qui avait une organisation politique, je dirais. Et donc, il y avait des conseils avec des lois, etc. Et dans ces lois, une des premières lois de base, c'était de dire que on ne prenait aucune décision sans tenir compte des 7 générations. Alors évidemment, on peut simplifier, romantiser en disant que les 7 générations, ça sera les 7 générations à venir. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Les 7 générations, ce sont mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, moi, mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, et donc mes arrière-petits-enfants. Nous sommes 7. En fait, nous sommes 7 à former ces 7 générations.
Génération passée, génération future, voilà. Mêlée. Quoi.
Ce qui veut dire que ce qui a été fait pour les générations passées est aussi important que ce qui doit être fait pour les générations futures. L'idée que l'on a de ce qu'ont fait nos ancêtres est aussi importante que ce que nous devons faire pour nos petits-petits-enfants.
Alors ça, on vous écoute vraiment avec beaucoup d'intérêt, parce que dans nos merveilleuses sociétés, chère Nicole, où le court-termisme est quand même érigé comme étant la règle, on est à l'opposé de ça, quoi. On voit bien qu'il y a une projection incroyable qu'avaient ou qu'ont encore peut-être ces gens-là, quoi.
Oui, enfin, moi, si je peux comparer par rapport au court-termisme politique, puisque je fais des chroniques le mercredi, des fois, je trouve dommage que les mandats durent que 5 ans, parce que on n'a même pas la conscience de la génération. C'est-à-dire que des décisions, que ça soit liées à l'éducation ou à l'écologie, donc qui impliquent forcément des dynamiques qui vont au-delà de n'importe quel mandat qui dure 5 ans, 6 ans maximum, peuvent pas être prises en toute conscience, puisque de fait aucun homme politique n'a intérêt à les prendre, puisque les résultats ne profiteront qu'à son successeur.
Mais moi,
c'est ça qui est compliqué.
Oui, c'est parce que encore une fois, on n'a pas le concept d'esthète génération. Oui. Parce que l'idée basique d'esthète génération, c'est que la personne qui est au pouvoir est également consciente de ce qui a été fait avant, du mandat précédent. Mais là, ça va plus loin, bien sûr, chez les Indiens. Et donc, elle est elle porte vraiment ce qu'ont fait les gens avant. Ouais. Elle doit respecter ce qu'ont fait les gens avant ou corriger les erreurs qu'ont fait les gens avant pour justement ouvrir la voie, une meilleure voie pour ceux d'après.
Mais du coup, je pense que ce serait bien que Françoise intervienne soit à l'Assemblée nationale, soit à l'Élysée, pour expliquer peut-être ce concept-là, façon à ce qu'on optimise notre avenir en France.
Non, il y a des Indiens qui sont bien meilleurs que moi, et je ne prendrai pas la parole à ce point pour eux quand même.
Mais je trouve que ça rejoint vraiment la conception holistique, c'est des gens qui ont une vision très globale. Et j'en dis un peu dans mon bouquin, je dis que les hommes politiques sont court-termistes et ne prennent que des solutions réductionnistes pour corriger un effet délétère. Et ils manquent d'une vision d'ensemble globale, mais qui s'inscrit sur le long terme, qui intéresse moins les gens. Et donc, ayant peur de ne pas être élus, ils font du court-termisme sur des... Ils préfèrent corriger des effets délétères que de réfléchir globalement aux causes profondes de la situation. Mais ça s'inscrit sur le long terme, et c'est comme pour l'alimentation, ça intéresse moins de monde.
Mais j'ai un groupe de révolutionnaires, là. C'est incroyable.
Moi, j'ai une question. Est-ce que Sandra vous pensez... Colombo, oui, pardon,
Non, c'est moi qui veux...
Est-ce que vous pensez que ça peut... C'est pas en train de changer, en fait. Moi, j'ai la sensation que les gens, en tout cas, nous, le peuple, je vais dire, entre gros guillemets, par rapport à nos gouvernants, on est en train de se rendre compte de ça, et qu'on est en train de se rendre compte que vraiment cette planète, on nous la prête pour le temps de notre vie, mais après
on
la
laisse. On est locataire, c'est tout.
On est locataire et on la laisse, et ça serait bien qu'on la laisse mieux que dans l'état où on l'a trouvé en rentrant. Oui. Mais voilà, je me dis, est-ce que les gens, nous, on n'est pas en train de prendre conscience de ça? Moi, j'ai cette impression-là, mais peut-être parce que. On a travaillé sur le livre aussi avec Nicole, et que c'est des questions qui nous intéressent depuis
longtemps. Puis vous avez fréquenté que des écolos, vous aussi?
Ouais, c'est
des Indiens.
Et des
écolos. On fait pas mal de soirées à Pâche.
Des soirées à Pâche, vous faites ça? Ah ouais, la prochaine.
Non, mais c'est sûr qu'on est on a un peu l'impression d'être au bord d'un gouffre. Donc oui, forcément, il faut qu'on trouve des solutions rapidement, c'est sûr.
C'est là que je... Juste un moment, Tony Fardet, puis après on passe une question.
C'est là qu'effectivement, la pensée globale et holistique est nécessaire, et on l'a un peu perdue. Et il faut vraiment qu'elle revienne, parce qu'on a besoin de penser les choses globalement, à long terme et de manière complexe, et ne plus avoir peur de cette complexité, je pense.
Je vais essayer, moi, de faire un enchaînement absolument redoutable, parce que donc les Indiens faisaient donc de la danse de la pluie, effectivement, pour implorer le ciel. Et Nougaro, il avait une autre solution. Hop, c'est parti.
L'enchaînement.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui
nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour. Mon amour. Une ferme du Poitou, un coq met une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles. En écoutant son Don Juan lui seriner sa séguedille pour imaginer son trépas, point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou. Cocolico, un coq émet une pendule.
Ah ouais, je suis désolé, j'étais ridicule parce que je pensais que c'était la pluie qui allait faire des claquettes avec Claude Nougaro. Et c'était bien aussi, on est parti dans le Poitou avec le coq et la pendule et... Voilà. Et
à mais parfois, de... il pleut dans le Poitou.
Ouais, c'est vrai.
Donc
c'est vrai que
ça marche comme transition.
Et puis, c'est nécessaire qu'il pleuve parce qu'actuellement, les gens se disent ah bah ouais, c'est bien. Non, non, les nappes phréatiques sont très très mal en ce moment. Hein. Il faut leur faire vraiment de l'oxygène. Donc, on a besoin de flotte. Surtout, nos amis agriculteurs qui nous écoutent le savent. Pour vos jardins également. Voilà. Donc, vous avez compris que nous avions une table de qualité, mais comme toutes les semaines, d'une manière générale sur France Inter et dans CO2 Mon Amour, Améliore ta vie pourrie avec Nicole Ferroni et Sandra Colombo. Et alors là, il y a aussi un peu petit épisode, moi que j'aime bien, sur ce qu'on appelle le greenwashing, hein, donc laver plus vert. Bon, alors dans le laver plus vert, par exemple, vous avez une enseigne qui commence pas par Disney, mais qui se termine par Donald. Hein, voilà, très bien.
Ah, très bien.
Ok, ça c'est fait. Alors, il y a aussi des marques de cola qui sont donc dedans. Enfin, bref, il y a encore beaucoup de greenwashing.
Ah oui. Moi qui vais à l'hôtel quand je viens des fois faire de la radio à France Inter, bah oui, je remarque un des greenwashing préférés par exemple des hôtels, c'est mettre un petit panneau avec marqué vos serviettes de bain sauf des arbres. Exactement. Et donc voilà, donc on nous propose donc de suspendre la serviette de bain si jamais on veut bien la réutiliser le lendemain, mais très souvent dans les hôtels par contre, il y a de la lumière allumée tout le temps partout, le chauffage à fond, mais voilà. Et ça c'est un petit exemple de greenwashing.
Mais même si tu mets je m'échine à mettre quand je vais à l'hôtel mettre les serviettes sur le truc, à chaque fois je reviens, ils ont changé. Voilà. Mais non, mais j'ai envie de dire, mais
parce que tu es très sale peut-être.
Mais
que...
oui, je suis sale, mais ça c'est un autre problème, on n'est pas obligé de le dire à la radio.
Non, absolument. Anthony Fardet.
Oui, je voulais demander sur greenwashing, parce que ça rejoint exactement ça. Rejoint ça. Les produits ultra transformés, les industriels, pour les garder ultra transformés, font du greenwashing.
Moi j'ai un très bon exemple.
Donc ils vous mettent des vaches qui pâturent sur des produits qui sont ultra transformés, où on vous fait croire que c'est bon pour votre santé, mais c'est du pur marketing, mais tant que le produit reste ultra transformé, ça change rien. Voilà.
Nicole.
Oui, j'ai un très bon exemple que j'ai remarqué les dernières années, c'est les cornflakes de la marque Kellogg's qui, par exemple, depuis quelques années, mettent un bandeau vert en haut comme ça de leur paquet avec marqué blé complet.
Blé complet reconstitué, donc recombiné. Donc ça peut être complet et ultra transformé, vous comprenez?
Mais est-ce que c'est complet avec tous les pesticides qu'il y a à l'intérieur?
Oui, c'est faire. C'est bonus.
Ah,
c'est bonus.
C'est bien alors.
Voilà,
content.
Faut peut-être mieux prendre du bio alors.
Vous voulez la mort des multinationales, c'est terrible.
Pas du tout,
Denis. On sent bien que vous n'êtes pas généreuse.
voilà.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on essaye quand même de slalomer entre ce qui est possible, entre notre gentille schizophrénie aussi parfois, entre les injonctions du marketing, vous les pointez donc très très bien aussi, Anthony. Et puis il y a quand même une réalité. Alors, effectivement, est-ce qu'on doit. Enfin, voilà. On se dit, c'est formidable, on est encore vivants, donc les uns les autres. Hein, ouais. Donc. Mais malgré tout, on a quand même des solutions. Et ça, c'est intéressant, Anthony.
Oui, il y a de l'espoir. Non, ce que je voulais faire, c'est un vrai diagnostic sur des bases holistiques et scientifiques. Parce que tant qu'on n'a pas bien identifié le mal, entre guillemets, on ne peut pas bien guérir. Si le médecin n'identifie pas la bonne cause, il peut vous donner un médicament qui va l'aggraver. Donc là, il fallait bien identifier, expliquer pourquoi la deuxième partie, donc la pensée réductionniste. Donc j'ai fait un lien entre pensée réductionniste, aliments ultra transformés, fractionnés, et maladies chroniques. Et dans une troisième partie, évidemment, je propose des solutions. Oui. Et j'ai voulu qu'elles réunissent les 150 ans de données en nutrition sans avoir à se préoccuper de la composition, parce que les gens n'y comprennent rien. Et de toute façon, ça ne sert plus à rien pour lutter contre les maladies chroniques. Donc ce sont des règles d'or holistiques et scientifiques qui sont très simples, qu'une amie à moi, blogueuse, Rachida, elle va se reconnaître, qui anime un blog « Sentez-vous bien », m'a dit « Tu vas les appeler les 3 V ». V pour végétal, V pour vrai aliment, donc peu transformé, et V pour varié. Donc c'est très simple à retenir. Vous avez, en retenant ces 3 V, vous avez tout l'enseignement de la nutrition qui est là, puisque la science montre que le meilleur régime, c'est un régime beaucoup végétal, peu transformé, donc vrai, et varié, si possible bio, local et de saison. Et donc ces 3 règles d'or, c'est ne pas dépasser 15% de calories animales, tout produit animaux confondus par jour, ne pas dépasser 15% de calories ultra transformées par jour, ça fait deux
15%,
portions,
c'est ça.
Ça fait à peu près 2 portions, voire je vous conseille plutôt une, ça suffira. Et ensuite, dans les aliments peu transformés, ce qu'on ne dit jamais, manger varié, parce que manger varié, si par exemple vous aimez bien les barres chocolatées, que dans la semaine, le lundi vous prenez un Nuts, le mardi un Twix, un Mars, un Lion, ça changera rien parce que c'est des calories vides sans micronutriments protecteurs.
Pas trop de marques quand même, enfin bon d'accord, enfin, on a compris. Oui. Non, mais c'est...
Donc ce que je veux dire, c'est que...
Non mais Mars, la planète,
l'animal,
le signe astrologique. Voilà.
Ce que je veux dire, c'est que manger varié a du sens quand c'est peu transformé. Donc voilà, ces 3 règles d'or sont holistiques parce qu'elles contiennent... C'est-à-dire si vous les suivez, vous êtes sûr de protéger surtout votre vie, le bien-être animal et l'environnement. Parce qu'un produit ultra transformé, de le fractionner et de le recombiner, mais ça coûte au niveau énergétique beaucoup plus cher que de prendre d'aliments naturels peu transformés. En plus, ces ingrédients, c'est produit dans le monde entier avec de la monoculture qui, on sait, détruit la biodiversité. Donc l'aliment ultra transformé n'est pas seulement mauvais pour votre santé, mais pour l'environnement et le bien-être animal.
Et quand on détruit la biodiversité, on détruit aussi le territoire des Indiens. Et ça, c'est pas marrant non plus, parce qu'ils ont quand même des combats tout à fait intéressants. Alors si, quand même, Indiens et la nature, le rapport, on va pas tout détailler, mais... avec les arbres, avec les rivières, avec l'air, avec les nuages. Qu'est-ce que c'est ?
Comme vous le disiez, c'est un rapport de parenté. Ouais. Mais vraiment de parenté. C'est pour ça que beaucoup d'Indiens prennent des noms, soit d'animaux, soit de plantes. Et c'est l'idée qu'on forme un tout et que bon, une part de nous est la même chose qu'une part de vent, qu'une part d'oiseaux, qu'une part d'araignée. Finalement, on appartient tous à ce même monde, encore une fois, toujours dans l'idée du cercle. Les arbres, je vais raconter la vision d'un grand chef croc. C'est les crocs sont au Montana, qui s'appelait Plantiku. Et c'est un homme visionnaire, c'est le dernier grand chef des Indiens crocs du 19e siècle. Il a eu la vision que les bisons allaient être exterminés. Il a vu ça en rêve, mais c'est une vision, c'est un peu différent d'un rêve. Et il a vu un arbre, un tronc, sur lequel il y avait un petit oiseau. Ce petit oiseau, c'était la mésange. Il s'est réveillé et il a compris ce que sa vision voulait dire. En fait, les bisons exterminés, c'était l'arrivée du bétail des Européens qui ont effectivement exterminé les bisons. L'arbre qui tenait le coup dans la tempête, c'était sa tribu, les crocs. Et le petit oiseau qui est devenu son animal fétiche, c'était la mésange, parce que la mésange est un animal très malin, un petit oiseau très malin. Des fois, certains disent que mésange, ça veut dire mauvais ange, mais bon, qu'importe.
Ah non. Et puis, je veux dire, c'est un allié aussi dans l'agriculture aujourd'hui.
Mais tout à fait.
Extrêmement important.
Ah, mais oui, on n'en a pas assez, oui. Hélas. Ah, oui. Non, bien sûr. Donc voilà, cette vision exprime un peu les liens que les Indiens ont avec la nature. Vous voyez, l'arbre qui représente le peuple représente une partie de soi. L'animal représente la sagesse qui nous manque. Et la disparition annoncée des bisons représente le danger que court la terre.
Donc, entre autres, adopter une mésange. Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement important.
Ah ben moi, je les nourris, je les adopte toujours. Mes chats aussi, d'ailleurs.
Mais quand vous avez vos chats aussi, mais il faut un boulot. Oui, écoutez, c'est un chat, il fait son métier de chat aussi. Donc,
voilà. Il mange des mésanges, le chat, attention.
Oui, oui. Mais pas transformer la mésange, il la mange directement. Hein,
c'est... Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça. Non, mais si vous avez des pommiers, d'ailleurs, ils bouffent les carpocaps, et ça, c'est excellent. Enfin, les mésanges sont très, très fortes. On les met aussi dans les vignes. Alors, nos Indiens aussi, ils ont des combats quand même aujourd'hui. Là, ça change un peu. Je parlais de ces territoires donc, qui étaient gentiment dévastés par du soja transgénique ou autre, mais aussi par des oléoducs.
Voilà, il y a ce problème dont tout le monde a entendu parler sûrement. C'est un oléoduc qui part du Canada, de l'Alberta précisément.
Là où vous avez les sables bitumineux, les schistes,
voilà,
et les sables bitumineux.
Voilà, ce qui est quelque chose de terrible. Par exemple, pour extraire ces sables, pour nettoyer ces sables, ils utilisent des camions énormes qui consomment 280 litres de pétrole par heure. Ils en ont plusieurs. Bon, donc on imagine un peu le ce qui se passe dans l'air quand ils brûlent rien que les camions.
Bon, donc il y a ce grand oléoduc.
Voilà, cet oléoduc transporte ce pétrole qui après va dans les raffineries pour être justement raffiné. Et il passait dans 6 États. C'était ce qu'on appelle le Keystone. C'était le nom de cet oléoduc qui traverse bien sûr des territoires indiens. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que cet oléoduc, finalement, ils s'aperçoivent, les Américains et les Canadiens, qu'ils ne transportent pas assez de pétrole. Donc, ils ont un nouveau tracé, qui est le Keystone XL, qui, lui, va traverser moins d'États. Au lieu d'en traverser 6, il va en traverser 3. Mais ce sont des États où il y a un écosystème très particulier, très fragile, et qui ont... beaucoup d'Indiens vivent sur ces États. Donc les Indiens sont conscients de ces écosystèmes fragiles et veulent à tout prix les protéger. Pas que les Indiens, il y a toute une coalition d'Européens, d'Américains blancs qui également les suivent.
Alors Obama avait dit, stop, on va effectivement arrêter un peu les dégâts. Et Donald Trump
a dit, on y va, bien entendu.
Très, très étonné d'ailleurs.
À fond, oui. Bien sûr. Et ce qui est le danger de cet oléoduc, qui finalement est souterrain, c'est qu'effectivement il peut y avoir des pertes,
Des fuites.
Bien sûr, oui. Et ce qui s'est passé il y a peu de temps, au mois de novembre, donc il y a eu des pertes de ce pétrole sale dans le Nebraska. Et c'était quelques jours avant que le Nebraska décide si oui ou non il acceptait le passage de cet oléoduc. Il passe dans des endroits comme superbes, comme la région des Saint-Nils, qui sont un territoire de très, très fragile, mais unique aux États-Unis.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné?
On ne peut pas dire qu'ils ont gagné. Non, on ne peut pas dire qu'ils ont gagné. Le combat continue, mais non, ils n'ont pas gagné encore.
Bon, alors, être bien dans les autres, bien aussi dans les autres, moi, je trouve ça intéressant, être bien dans son spirituel. Spirituel, ça nous fait une liaison avec nos amis indiens, mais aussi être bien dans les autres. Bah, c'est un de vos chapitres que vous ouvrez d'ailleurs avec une citation de Winston Churchill qui dit « Je ne suis pas difficile, je me satisfais aisément du meilleur ». Bon.
Bah oui, on s'est dit qu'on allait viser haut finalement.
Oui, on s'est dit aussi que Winston Churchill écrivait mieux que nous, donc il valait mieux mettre des phrases à lui qui avaient déjà bien marché.
Je comprends. Donc.
Il les a bien testées avant nous.
Bon, et ça aussi, c'est-à-dire être bien donc avec autrui, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même tout le cheminement que vous avez fait dans ce livre. Partez d'abord de la planète.
Ouais, on est parti de l'écologie au sens le plus large du terme, et on a découlé comme un entonnoir vers l'écologie la plus personnelle, quelque chose qui nous concerne intrinsèquement, puisqu'on arrive jusqu'à la mort. Et oui, parce qu'on va tous mourir.
Oui.
Voilà, et on s'est dit comment être vert et mort à la fois, par exemple.
C'est ça.
C'est une vraie question. À part être une grenouille, bien sûr, blague de Nicole Ferroni, qu'elle a illustrée brillamment grâce à une petite grenouille, car oui, Nicole dessine.
Bien sûr, la mort est une chance, car si on ne mourrait pas, la surface de la Terre serait comme un gratin géant de vieilles personnes entassées, donc merci la mort.
Ça c'est une phrase de nous. Vous voyez la différence entre celle de Winston Churchill, du tout le même style.
Il faut qu'on revienne dans 50 ans, ça se trouve, cette phrase, elle aura cartonné, on ne sait pas.
Ah bah c'est génial, quoi, là. Donc bien sûr. Derrière tout ça, alors moi je m'intéresse toujours, parce que c'est vrai que de temps en temps, on se dit, bon, attendez, on est en train de ramer l'environnement, c'est un peu une espèce de tapisserie de Pénélope. Alors, on voit plein d'initiatives. Et ça, heureusement, on ne les voyait pas il y a 5 ans, 10 ans encore. Notre ami Philippe Bertrand en parle tous les jours aussi, donc, etc. Donc, on voit plein de choses quand même qui nous font du bien. Puis d'autre côté, il y a toujours cette espèce de grand bulldozer quoi, qui fout en l'air. Donc comment on arrive à vivre tout ça
Chacun, vous voulez dire?
Oui, comment... je sais pas, oui, comment. Et puis surtout, traçons une espèce de d'avenir. De...
Je pense que ça soit comme dans l'alimentation ou chez les Indiens, je pense que déjà le fait de faire sa part et de choisir sa propre alimentation ou choisir sa propre spiritualité ou voilà, de voir le lien qu'on a les uns aux autres et voilà, les uns avec l'environnement dans lequel on habite, ça c'est une première chose. Après, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait contre le bulldozer? Malheureusement, je pense que à part essayer de faire comme un banc de poissons ou comme toutes les molécules d'un même aliment ou comme tous les Indiens d'une même tribu, c'est-à-dire se réunir pour crier plus fort que le bulldozer, je vois pas. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est encore de s'unir.
Bien, Sandra.
Oui, bah c'est ça. Le truc, c'est que en fait, moi, je suis, moi, il m'arrive parfois, comme tout le monde, de manger des aliments transformés parce qu'encore une fois, c'est très bon, ultra méga transformé. Mais le truc, c'est que je veux le savoir en fait. Je veux que ça soit mon choix.
Voilà.
Et par exemple, moi, depuis à peu près un an, je ne mange plus de viande, même par choix personnel, et je vais beaucoup mieux dans ma tête parce qu'en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'étais môme, on m'obligeait un peu à manger de la viande, hein, ce qu'on fait tous les parents, et voilà, et c'est normal, puisqu'on leur a dit que c'était des protéines, et que du coup, moi...
Ce qui est une réalité, voilà,
mais moi, quoi. De manière intime, personnelle, ça me dérangeait vachement, en fait, de manger des animaux morts, et du coup, je trouve que je vais mieux. Alors ça, c'est un tout petit geste.
Il faut les manger vivants.
Il faut les manger vivants, mais c'est dur à capturer, j'ai des toutes petites jambes, ils courent beaucoup plus vite que moi. Et du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, moi, je trouve, d'être en cohérence avec là où on veut aller. Voilà. Et c'est aussi un peu l'objet du livre, c'est de dire ayez des combats qui vous sont personnels. Enfin, c'est même pas des combats, en fait. Prenez la vie de la manière dont vous voulez, mais en tout cas, soyez clair avec vous-même. C'est ça, ne vous faites pas avoir par des choses qu'on vous markete de manière très jolie, comme les paquets de céréales avec les bandeaux verts et tout ça. Parce que ça met mal à l'aise en fait.
Malgré tout, comme ça va pas forcément de soi, l'écologie est un peu parfois un sport de combat. Hein, donc,
c'est souvent un sport de combat. D'où l'idée de tous se rassembler.
Et entre différents ministères d'ailleurs aussi, on le voit aussi Anthony Fardet, donc pour dresser un avenir. Non, c'est vrai que ces sujets-là n'étaient pas sans jeu de mots sur la table, une fois de plus, il y a encore quelques années. Maintenant, ça y est, c'est compliqué, parce que la vie est compliquée quoi qu'il arrive, mais vous voyez quand même des évolutions aussi avec les gens que vous rencontrez.
Oui, alors je veux juste rebondir parce que quand on dit la viande, c'est effectivement des protéines, c'est tout le danger de la pensée réductionniste, parce que ça laisse à croire que les végétaux n'en sont pas. Vous voyez le danger? Alors qu'en fait, il y en a plein dans les végétaux.
Bim, bim, Colombo, toute une éducation à refaire. Bah, bravo mes parents.
Il y a de l'espoir, donc moi je prône une vision plus globale et donc holistique des choses, pour reconnaître l'interdépendance des choses. Quand vous achetez dans le supermarché, eh bien vous impactez l'agriculteur à l'autre bout du monde, vous impactez la souffrance animale et vous impactez votre santé.
Grand merci à vous Anthony Fardet. Halte aux aliments transformés. Mangeons vrai chez Thierry Soukar édition Les Indiens et la nature aux éditions du Rocher. Merci à vous Françoise Perriot. Merci à vous deux Nicole Ferroni et Sandra Colombo. Améliore ta vie. Vous pouvez les applaudir. Hein. Oui,
merci beaucoup.
Merci Monsieur Chaussy.
Et alors, comme vous êtes là, je ne sais pas si vous écouterez la librairie francophone de l'ami Emmanuel Kirat. Je suis ravi parce que là, on peut se faire un vrai passage d'antenne. Et cher Emmanuel, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois un chanteur suisse qui chante comme un métronome, Henri Dess, et puis Dany Laferrière.
Eh oui, bonjour Dany, bonjour à tous. Ça va?
Ça va être ça, la librairie
francophone. Génial, la librairie francophone, Radio France Fête le Livre avec Henri Dess. Vous connaissez mon petit loup,
Henri Dess? On le connaît, oui, tout à fait.
Voilà. Avec Lojo aussi et Dany Laferrière, rencontre inédite entre Dany et Henri Dess, le groupe Lojo. Joe, le prix des 5 continents, Johan Sfar, Studio 105, avec plein de lycéens.
Joie, bonheur, génial. Une fois de plus sur France Inter. Merci à Yvan Turc, Yves Lors, Georges Thau, David Abécassis à la technique, ainsi que Benoît Gégou. Merci à Camille Blanès, Alain Bizou qui réalise l'émission à 17h. Ce sera la Tulu, mon petit loup, émission tout à fait spéciale pour les 30 ans. Et puis la fête du livre, ça continue avec France Inter aussi. François-Régis Gaudry sera avec On va déguster demain à 11h. Le grand atelier de Vincent Josse avec Eric Orsena aussi. Donc ça continue, on aime le livre et on se retrouve nous la semaine prochaine.